mesdames et messieurs, c'est le commandant de régie qui vous parle. Auditeur de Radio FMR, service intergalactique, merci de nous écouter sur le flux Hawk Vorbis. Notre programme va être relayé à 89,1 mégacycles en modulation de fréquence analogique sur la région de Toulouse, à Midi-Pile, temps commun européen. Les sorties de l'appareil sont marquées sur votre écran ou à droite par une croix ou un bouton rouge. La température au sol est de 12 degrés et nous vous remercions d'avoir choisi notre compagnie. Merci de boucler votre ceinture pendant l'atterrissage. Dans l'attente de nos émissions normales, l'hymne officiel vous est interprété par Fred Rabol, und dies Bavarische Orchestra.
Lieutenant Thomas, je vous préviens, c'est la dernière fois.
Qu'est-ce que j'ai fait encore, capitaine?
Ah, mais... ne faites pas l'innocent avec moi, je sais très bien que c'est vous qui avez mis du laxatif dans mon thé avant que je fasse une sortie en combinaison. Rien que pour ça, ça mériterait presque la cour martiale.
Vous divaguez complètement, capitaine. Et vous avez pas pensé à demander au droïde?
Je veux pas savoir, vous viserez quand même me faire des corvées de chiottes. Et pas au désintégrateur à l'ancienne, avec l'éponge.
Attendez qu'il y ait du sport. Il doit pas être innocent dans l'affaire.
Ouais, c'est ça. Faut pas savoir. Bon, les moniteurs sont au blanc. Là, on a dû prendre la fréquence 89,1. On est bon. Et ne bouffez pas cette fois-ci. Attention, je vous ai à l'œil. Vous et du sport. Est-ce que ce genre de plaisanterie, vous croyez que je vais laisser passer ça? Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 17 février 2007, il est exactement midi.
FMR est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
FMR. Ça rit dans vos oreilles aujourd'hui avec Pour Commencer. Maintenant, le supplément week-end avec l'actu BD, cinéma, DVD, TV, suivi de ça c'est du sport. À partir de 13h30, les résultats en direct des stades, des vestiaires et de l'infirmerie. Et ensuite à 15h, du mix avec Zarma Farai, c'est du reggae. 17h, Big Bang. 18h, Vie d'ordure, c'est du punk. 19h, Happy Rare. 20h, La Stéphéro Experience. 21h30, 9 Love. Vous écoutez FMR sur 89,1. Nous sommes en direct de midi à 5h du matin. Lieutenant Thomas, alors, c'était vous qui m'avez mis du laxatif dans la combinaison spatiale?
Ah, je ne dirais point, il faut interviewer les droïdes, interroger du sport, utiliser les sondes galactiques, je sais pas.
Bon, d'accord, ok. En attendant, je mets la purée, on va décoller, on va s'arracher de cette planète moisie, on va voir ailleurs si le futur est plus brillant.
Allez, feu!
We'll be right back. Before You Leave, Pépé Deluxe. Et vous croyez que le copilote, là, il est en train de suivre ? Même pas. Il griffonne sur le tableau de bord.
Il peut faire repartir cette putain de machine.
Ah bah, il y a le steward, c'est pas trop tôt.
On va de la salle des machines. J'ai le turbopropulseur qui est encore pété.
Aujourd'hui, dans le supplément week-end, c'est une spéciale science-fiction, s'il vous plaît. On a trouvé intéressant. Il y a plein de choses là qui allaient ensemble, surtout dans l'actualité bande dessinée. Donc, on s'est dit pourquoi pas. On va en parler tranquillement et d'une manière, pour une fois, un peu sympa. Alors, premier juré dans cette spéciale science-fiction, il n'y aura pas des aliens, je veux dire, soit des hommes dont on a vaguement fait agrandir le front pour les faire paraître plus intelligents, ou des gros monstres caoutchouteux qui font comme ça, pas de musique électronique des années 70, vaguement pitoyable, ou de maquettes vaguement ripollinisées pour faire un effet spatial et tout, filmé de très près et tout le reste. Non ! La science-fiction est quelque chose de beau, de magnifique, qui fait rêver. Alors, par définition, la science-fiction, c'est plutôt le genre qui se démode le plus vite. Bah oui, puisqu'elle invente des événements qui auront lieu ou pas. Alors, quand le futur est passé, Mais pour célébrer l'avant-dernier numéro d'une de nos séries fétiches, à savoir Valérian et Laureline, il fallait que l'on fasse une spéciale SF. Une spéciale SF spatiale, héroïque, celle entre le space opéra et la hard science. C'est la grande ère héroïque, l'épopée pyjama à coupe Star Trek, mais avec le réchauffement climatique, et l'uniforme est passé au maillot de pièce. Et je peux vous dire que je suis ridicule en maillot de pièce.
Oui, tout à fait, on vous montrera les photos. Tandis que l'officier du sport est tout fier de nous présenter un magazine Star Trek avec les pyjamas.
Ouais, et oh ouais, c'est du... Ouais, c'est du pool box, hein, ce truc. Enfin bon, c'est pas pratique. Aujourd'hui donc, nous promettons de retrouver une joie perdue, celle d'une science-fiction qui se voulait radieuse, créative et inspirante. L'humanité par-delà les étoiles. Aujourd'hui, le supplément week-end vous incite à bien accrocher votre ceinture, à vérifier votre combinaison spatiale anti-radiation, à demander à votre opérateur téléphonique une extension de couverture Wamming supragalactique, sans oublier serviette, brosse à dents, poisson de Babel et guide du retard galactique. Alors, au programme aujourd'hui, qui est assez serré quand même, on a donc une spéciale Valérian et Laureline, on a une interview de Denis Bajram, je parlais d'un truc dark, tout à l'heure en costume de pièce, non c'est pas franchement, c'est plutôt en uniforme, vous verrez tout à l'heure, il s'agit de Universal War One. Et du sport, lui, va s'attaquer à la science-fiction anglaise. Non Thomas, me regarde pas comme ça, tu sais ce que cela signifie. Ah d'accord, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, combien d'us ?
Woga.
Woga, ah oui, bon d'accord. Donc,
oh,
Woga en langage Shmlogloc, ça veut dire beaucoup. Voilà.
Non, ça veut dire bonjour, bienvenue en Sioux, je crois.
On va y arriver peut-être. On va partir dans littéralement du noir, du sombre, du très très sombre, puisque Universal War One est une série qui est sortie en 6 tomes chez Soleil et maintenant donc chez Cadran Solaire. Dessinée et scénarisée par Denis Bajram, on peut dire que Denis Bajram il a fait un final qui est aussi glaçant que le reste, assez brutal et énorme. Voilà, résumé des histoires précédentes. Universal War One, c'est l'histoire de la Légion Purgatory. C'est une espèce de tête brûlée dans l'espace, c'est-à-dire des gens que l'armée spatiale de l'ONU a préféré mettre un peu à part et exiler loin du côté de Saturne, si je me souviens bien. Le problème, eh ben, c'est que en fait, il y a une guerre qui se déclare avec le consortium chargé de l'exploitation exclusive des planètes autres que la Terre dans le système solaire. Et résumé des épisodes, eh ben, c'est que la Terre a été détruite dans ce conflit. Le berceau de l'humanité a été incinéré, tout comme 20 milliards d'âmes, par un trou noir apprivoisé dans un chantage financier de multinationales, pardon, multiplanétaires. Et donc, l'ensemble de la race humaine a été mise en esclavage par ses propres pères, devenus maîtres d'un conglomérat d'entreprises, concessionnaires exclusifs de la conquête spatiale, et donc désormais de l'humanité. Privée de ses origines, celle-ci ne peut que se soumettre. Oui, mais le reste de l'escadrille Purgatory a peut-être une chance de remettre les choses en ordre, ayant fortuitement découvert le voyage instantané dans l'espace, et peut-être le temps. Sous la surveillance des compagnies industrielles de colonisation, nous avons donc pu essayer de rencontrer Denis Bajram dans sa géole. C'était lors du festival d'Angoulême en janvier dernier, et donc, eh ben, nous a fait l'honneur d'une interview assez longue. Denis Bajram, bonjour.
Bonjour.
Ça n'est pas la première fois que l'on se voit. La dernière fois, c'était il y a longtemps, une interview en vidéo. Alors, la première chose que j'ai à dire, la fin de Universal War One, eh ben, on mesure que l'ambition impressionnante du scénario t'est finalement arrivé jusqu'au bout, et là, quand même, respect.
Bah merci, c'était un peu le but du jeu. C'était tout bête, hein, il suffisait d'écrire avant. Il n'a l'air de rien, ça paraît une évidence, mais je sais que beaucoup de mes collègues n'ont pas pris cette bonne habitude. Et c'est vrai que moi je l'avais entièrement écrit, les 6 tomes, 8 ans avant de finir le dernier. Ça aide à pouvoir faire des croche-pattes à son lecteur plus facilement quand même.
D'accord. Et justement, lors de cette interview qui a été réalisée, je crois, pour la sortie du tome 2 ou du tome 3, eh ben, tu parles dedans que tu as matière pour faire deux autres séries de 6 tomes toujours dans le même univers et d'un roman. Qu'en est-il ?
Ça n'a pas changé, j'ai toujours la matière. Il y a eu un essai avec un dessinateur, mais ça m'a fait bizarre de voir des pages dans d'autres mains. Donc pendant un temps j'ai dit, bon bah s'il y a eu W2, ce sera moi qui le dessinerai. Et puis finalement je suis en train à nouveau de réfléchir, parce que j'ai revu un autre dessinateur, pourquoi pas. Donc pour l'instant en tout cas, c'est clair, c'est toujours dans l'air, mais je ne peux pas te donner de date, de lieu, d'heure et de possibilité. Voilà.
C'est peut-être aussi parce que cela te prend beaucoup de temps de réaliser les albums pour avoir le niveau graphique que tu souhaites.
C'est long, c'est clair, mais c'est surtout que j'ai UW1, c'est 30% de ma vie, et j'ai plein d'autres choses passionnantes à faire. J'ai pas envie de devenir l'homme d'une seule série et d'un seul univers. J'ai peur de m'emmerder quand même assez vite si je fais ça. Quoi.
D'accord. Le voyage dans le temps, c'est plutôt quelque chose qui est très très difficile à mettre en scène, et notamment pour éviter d'avoir une incohérence à cause évidemment des paradoxes spatio-temporels et tout le reste. Tu t'es repris combien de fois pour écrire le scénario ?
Ah, c'est le premier jet. En l'occurrence, il suffit d'avoir fait des maths. Voilà. J'ai la chance d'être un matheux naturel. À l'école, il y avait tous mes copains qui avaient mal à la tête, et moi qui fais « Ah bah oui, c'est logique !» Donc j'ai écrit le scénario de cette manière-là. Donc franchement, ça a été vraiment facile. Maintenant, je comprends. J'ai réalisé que c'était très difficile pour les trois quarts des gens, mais moi, ça m'a posé aucun problème. Quoi. Il suffit d'être logique. Le voyage dans le temps, c'est le respect de la logique. C'est un pur exercice de logique. Ça ressemble à faire du sudoku, j'imagine. Ou, je n'ai jamais fait, mais ça doit être ce genre de choses, ou du Rubik's Cube. Quoi. Donc c'est lent, et avec un peu de patience, on y arrive. Voilà.
Et le fait que tu nous avais raconté précédemment, dans une précédente interview, que en fait ton désir de voyage dans l'espace était suite à un voyage à Kourou, tu as envoyé à l'équipe qui est à Kourou tes albums pour voir leur réaction ?
Non, parce que c'est plus les mêmes que l'époque où j'y étais, moi j'imagine. Mais Non, mais là de rien, le temps passant, le regret de ne pas avoir été astronaute est en train de passer. Quoi. Je me rends compte que j'aurais consacré beaucoup de temps de ma vie à conduire des avions, que c'était plus intéressant de servir de son cerveau à autre chose. Voilà.
Ça, c'est magnifique. Dans certains de tes albums, c'est quand même de l'art science, avec un graphisme assez technique et assez réaliste. Tu y insères des dessins qui rapprochent un peu à des dessins caricaturales du dessin de presse de l'entre-deux-guerres. À quel stade de la production t'es venue cette idée ?
Je sais pas, franchement, c'est vu comme ça. Au moment où je racontais les événements historiques de l'histoire, il me paraissait logique de convoquer le dessin de presse et ce genre de choses. Donc la question s'est pas posée du tout, quoi. C'est, encore une fois, les UW1, c'est naturel pour moi. Les personnages, l'histoire, la logique, tout ça, c'est moi-même. Ce n'est qu'une extension de moi-même, cette histoire-là. Apparemment, je n'ai pas un moi-même très standard, vu comment les gens ont l'air surpris en lisant. Donc, je vais me faire enfermer par les messieurs en blanc, et avec les gyrophares bleus sur le toit. Mais pour l'instant, en tout cas, tout ça n'est pas... Finalement, c'est très réfléchi, mais de manière très naturelle. Voilà.
Oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une science-fiction qui est très riche, très mûre, et surtout qui ne s'arrête pas uniquement à l'aspect science-fiction. Donc, ça tord énormément le coup aux idées reçues. Et l'idée d'avoir fait de très longs narratifs, donc plutôt que le lecteur s'ennuie, on va y mettre du dessin de presse, c'est plutôt inédit, ça. Je ne pense pas avoir vu ça ailleurs.
Ah, si ça existe, ne serait-ce que on peut reprendre l'exemple de Frank Miller jouait beaucoup avec ça. Alors c'était pas le dessin de presse, c'était l'imagerie télévisuelle américaine des années 80, mais il avait très bien compris ce genre de choses. Il y a ce genre de trucs chez Fabrice Nau, par exemple, je pense, dans le journal chez GoComics, des trucs comme ça. Non, j'ai pas l'impression d'être un novateur là-dessus. Ce qui m'étonne, c'est que les autres n'utilisent pas ce genre d'artifice, encore une fois.
Il y a des clins d'œil vachement frappants visuels dans la BD dans Universal War One, c'est que les personnages sont souvent tournés de la même façon avec le même cadrage. Surtout pour le héros qui on voit suivant les pages, en fait, il y a toujours une image qui revient en fait. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que tu as pris l'habitude de dessiner comme ça et qu'en fait tu, comme tu le dis à la fin, tu arrives difficilement à changer d'attitude, etc.
Je pense que c'est le inévitablement ce qui arrive quand on fait beaucoup de dessins, on finit par se répéter. Et on a des images qu'on adore et qu'on refait éternellement, même si évidemment elles sont toujours différentes. Y a un copain qui me racontait que toute sa vie de dessinateur, c'était de réussir à refaire un dessin de Buscema qu'il avait vu de Conan dans son trône, et qu'il ferait ce dessin dans tous ses albums évidemment camouflé, parce qu'il peut pas faire Conan quoi, mais et toute sa vie, et qu'il serait jamais content, et les gens vont débarquer en lui disant mais pourquoi les mecs sont assis dans les fauteuils de manière vautrée comme ça avec les mains sur les accoudoirs. Voilà, et ben c'est sans doute un peu pareil pour ces histoires de portraits, je pense. Je vais avoir un complexe, je sais pas, un dessin de Velázquez, regardez, parce que je suis un énorme admirateur de Velázquez. Il fait beaucoup de portraits en trois quarts comme ça, genre le pape innocent, je sais pas si vous voyez cette peinture qui a été repris par Bacon depuis. C'est pas impossible que ce soit le genre de cadrage. J'ai jamais regardé, mais il y a peut-être ce genre de choses qui de combat permanent avec un modèle comme ça.
T'inquiète, on les a relevés. On les a mis au surligneur d'ailleurs. Ce qui est assez intéressant, c'est par rapport à ta première série Cryozone, Universal War One, c'était vraiment un saut quantique au niveau graphique. Mais néanmoins, en re-regardant tes précédents tomes, est-ce que tu n'as pas des regrets, que cela soit au niveau du scénario ou au niveau du dessin, des faiblesses que finalement t'aurais aimé faire autrement ou corriger?
Oui, un petit peu, mais... En me lançant dans un projet sur 6 ans et qui sont devenus 8 ans avec le temps, je savais que j'allais vivre ça, donc c'était des regrets acceptés depuis le départ. Donc non, je suis plutôt content. Je m'attendais à plus de regrets, je dois dire. Donc bon, j'en ai quelques-uns inévitablement, mais j'ai déjà des regrets sur le dernier tome, hein, donc on vit comme ça avec son travail. Hein. Non, franchement, ça va. Là-dessus, j'ai pas encore le complexe d'Hergé, l'envie de refaire tout de manière unifiée. Ça viendra sans doute, mais pour l'instant, ça va.
En cours de production de l'album, tu t'es mis au dessin virtuel, puisque tu utilises de plus en plus la table graphique. Quels sont les logiciels que tu utilises pour la production ?
Je travaille uniquement avec Photoshop, en fait, qui est le logiciel standard de retouche d'images de Adobe. Adobe, comme on doit dire normalement, c'est ça en anglais.
Tu dis ça parce que tu te fais de plus en plus sponsorisé par eux ?
Je suis pas sponsorisé, on a fait des salons ensemble, etc. Alors j'ai mis le logo sur le bouquin. C'était vraiment un remerciement par rapport au boulot qu'on avait fait ensemble, au bon contact qu'il y avait eu, au salon partagé, etc. Et eux, à un moment, comme ça s'était bien passé, on dit ah mais on offrirait bien nos bouquins à nos clients, etc. Donc on leur a passé 400 bouquins qu'ils ont offert à leurs gros clients, et on a mis le logo dessus, comme ça c'était rigolo quoi. Mais c'est avant tout une demande de ma part, en fait. J'ai eu la chance de rencontrer certains membres de l'équipe, et c'est vrai que je trouve vraiment que Photoshop est un formidable logiciel, et j'avais envie de dire qu'il n'y avait pas besoin d'aller sur des pseudo-logiciels de dessin comme Painter, pour ne pas le nommer, pour pouvoir faire du vrai dessin vivant, et que Photoshop était un outil tellement parfait qu'on pouvait tout faire dedans quoi.
Donc en fait, c'est parce que tu as tous les outils sur Photoshop pour faire ce que tu veux faire, ou parce que tu trouves que Painter, franchement, ça c'est pas adapté à ce que tu à ta production?
Pour moi, Painter, il y a un truc qui n'est pas logique. On prend Painter, on tire un coup de pinceau et ça a l'air d'être fait à l'huile. Moi, je fais de l'informatique, je fais pas de la pseudo-huile. L'imitation de la main de manière automatique, il n'y a rien de plus chiant. Photoshop, c'est un logiciel brut, c'est-à-dire que c'est quasiment un univers de programmation du pixel, on va dire. On est obligé de l'apprivoiser pour pas avoir un rendu sec. Mais au moins, on n'est pas en train de faire une pseudo-imitation d'un pseudo-support qui n'existe pas. Donc pour moi, tous les trucs faits sous Painter, dans la seconde, je sais que c'est fait sous Painter, parce que ça ressemble à de la pseudo-huile, à du pseudo-charbon, à du pseudo-aquarelle, etc. Donc, alors dans Photoshop, on est obligé d'apprendre à l'apprivoiser. Maintenant, le rendu que j'ai dans Photoshop, personne d'autre ne l'a. Évidemment. Donc c'est une vraie démarche artistique. On est en train de dominer un média, on n'est pas en train de faire semblant de savoir faire de l'aquarelle, en clair.
On a vu qu'un dessinateur chinois qui est en train de percer chez un éditeur qui s'appelle Xiaopan, et le dessinateur s'appelle Benjamin, a sorti en Chine des méthodes graphiques pour justement apprendre à maîtriser Photoshop pour faire la bande dessinée. Est-ce que toi, tu souhaiterais faire de même à côté de tes productions d'albums?
Ça prendrait énormément de temps. Alors, je donne des petites conférences, en fait. Donc, je faisais justement avec Adobe sur le genre à l'Apple Expo, etc. Pas pour dire aux gens comment faire. Dans toute franchise, je pense que les règles, c'est très bien. C'est très important d'en avoir et c'est tout aussi important de les oublier dans la minute. Donc, j'essaie surtout de leur montrer que dans Photoshop, avec deux outils, c'est mon cas, on peut tout faire. Que c'est simple et qu'il ne faut pas avoir peur du logiciel, il ne faut pas se laisser dominer par lui, qu'au contraire, finalement, c'est pas plus dangereux qu'un papier ou un crayon. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile à maîtriser, comme un papier et un crayon, et c'est en même temps extrêmement simple, il suffit de prendre son papier et son crayon, de tirer un trait et on a quelque chose. Et c'est vraiment l'envie de montrer ça. Après, expliquer comment moi, de manière méthodologique, exactement je fais, franchement, que les gens en fassent leur tambouille et découvrent leur propre méthode, la standardisation autour de 2-3 méthodes, c'est vraiment saoulant.
D'accord. Mourad Boudjelal, le patron de Soleil Productions et qui est ton éditeur, t'a fait énormément confiance puisqu'il t'a carrément proposé de monter ta structure éditoriale, Quadrant Solaire. Alors, qu'est-ce que tu aimerais y mettre dans Quadrant Solaire ?
Ah ben, ce qui va y paraître, puisqu'il y a déjà beaucoup de choses qui arrivent. En fait, au départ, Mourad, il y a quelques années, avait fait une certaine pression pour qu'on devienne directeur de collection, mais on en avait dit non parce qu'on ne voulait pas passer de ce côté-là du fossé, on va dire. Et puis, ces derniers temps, on a vraiment, Valérie et moi, donc mon épouse Valérie Mangin, qui est scénariste aussi, on a vraiment commencé à trouver qu'il y avait une très mauvaise dislocation de la bande dessinée, avec d'un côté une bande dessinée très populaire, parfois trop populaire, pour le supermarché, etc. Et le côté une bande dessinée parisio, branchouille,
avec des choses. Enfin, de librairie, de bande dessinée, quoi.
Même pas, non, carrément de branchouille, on va dire, pour Télérama et France Inter, etc. et tout. Avec des trucs très bien, encore une fois, les deux côtés, hein. Et que, moi, la bande dessinée la bande dessinée qu'on aimait, elle est au milieu. C'était Christin et Mézières, Christin et Milal, par exemple. Le même Christin pouvant faire la partie de chasse qui est un récit politique avec un Milal, et puis de la grande aventure cosmique, mais avec du sens et un peu de social dans Valérian à l'époque. Et que ça, de fait, c'est en train de devenir interdit de séjour. Or, c'est ça la bande dessinée qui nous avait donné envie de faire de la bande dessinée. Et il y avait vraiment eu envie de défendre ça. Et donc, on est revenu auprès de Mourad en disant, écoute, nous, on a envie de faire ça. Alors, on sentait que c'était pas comme Soleil, il y a une image là très populaire et très ado. On s'est dit qu'on allait devoir bêtement lutter contre cette image là si on voulait faire ça. Donc on lui a proposé de monter une autre image, une autre marque, donc Cadran Solaire et une marque parallèle à Soleil pour défendre ces valeurs là. Il nous a tous très bien compris et très bien suivi, c'est remarquable de sa part.
Tu parlais de Mézières et de Bilal tout à l'heure. En fait, ils ont été approchés au début des années 80 pour faire de la SF avec les ricains à Hollywood. Est-ce que toi, tu as été approché aussi de ton côté? Est-ce que tu voudrais participer à ce genre d'aventure?
Quand quelqu'un arrive du cinéma, en général, je lui dis que je veux pas. Je me dis toujours que celui qui voudra vraiment, il reviendra. Alors, pour l'instant, il n'y en a pas eu un, apparemment. Parce que souvent, c'est vrai que par exemple, UW, on m'a souvent proposé d'acheter une option dessus, de prendre les droits. Et j'ai toujours non, je veux pas vendre. Et c'est marrant, j'ai découvert Frank Miller avait fait la même chose pendant 10 ans sur Sin City. Puis il y en a un qui a forcé la porte 3 fois et ce jour-là, il a su que ce serait le bon, quoi. Voilà. Mais je ne savais pas avant, donc je me souhaite le même sort que Frank Miller. Ça serait bien. Je serais très content d'avoir un UW1 par exemple au cinéma, une belle adaptation, vraiment bien faite, etc. Mais il faut que la personne ait un moral à toute épreuve parce que ce sera un projet très lourd. Donc il y a sacrément intérêt à ce que le réalisateur et le producteur y croient.
Oui, et puis c'est quand même relativement difficile de compiler 6 albums de manière cohérente en un long métrage. Par contre, il y a eu un projet, il y a eu un dessin animé de fans qui a été fait en flash en 2000 à l'époque. Tu verrais plus en production télévisuelle ?
Non, vraiment, je verrais. On m'a dit que ce serait rigolo d'en faire une série. C'est vrai qu'on voit Galactica, par exemple, récemment. Je pense qu'ils ont eu quelques bouquins en main, mais ils ont relativement réussi ce genre de choses. Mais franchement, l'ampleur budgétaire pour faire, parce que le récit quand même implique énormément de choses et très spectaculaires, des gros moyens et tout. Je vois plutôt un long métrage de 3 heures. Mais il faudrait réécrire l'histoire de manière différente. Hein. Ce serait une sorte de raccourci. Et tant mieux, parce qu'à la limite, les gens après qui voudraient en savoir plus liraient une bande dessinée. On a, comme finalement quand on résume Proust en un film. Ça n'empêche personne d'aller justement lire derrière la recherche du temps perdu.
Denis Bajram, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et donc Universal War One, le tome 6 qui clôt donc la première série, s'appelle Le Patriarche, est sorti depuis un mois et demi chez Cadran Solaire, donc qui est une maison d'édition un peu filiale de Soleil, qui s'occupe avec Valérie Mangin, si je me plante pas. Ouais,
il a dit super. Dans l'interview d'ailleurs.
Super, ouais, mais si tu continues à me parler pendant l'interview, tu sais, moi je peux pas suivre, mixer tout le reste.
Oh, le pauvre.
Oui, c'est ça, ouais.
Voilà, et on a parlé tout à l'heure à propos de Photoshop, on a parlé d'un auteur chinois qui s'appelle Benjamin.
Ouais, petite merde là qui fait des gribouillis.
Ouais, ouais, ouais. Remember et Orange chez Tiaopan, et c'est vrai que ça nous a un peu espanté quand on l'avait vu. Je crois qu'on peut le dire.
On peut dire qu'il sera avec nous dans cette émission en direct
le courant mars.
Courant mars, oui.
Voilà, voilà, il sera en dédicace sur Toulouse et on l'aura en direct. Donc, sur ce plateau.
Voilà, ça va parler mandarin.
Voilà. Sinon, Thomas, très cher ami. Non, Thomas, on s'enfuit. Bon, allez, hop, oui, on raccroche, on s'en fiche et puis voilà, Zou. Sinon donc il y avait un quiz qui était prévu, donc du sport va raccrocher de suite.
On parsemait cette émission de
oui,
quiz.
C'est pas sympa d'appeler quand on est en direct.
Donc hein. Nous parlons assez fort pour que du sport n'entende pas un mot du téléphone.
Ouais, attends, je vais le monter encore, voilà.
Du sport est quelqu'un de très occupé.
Voilà, Zou.
Ce sont les machinistes de la salle des machines.
Oui.
Il y a un problème dans le vaisseau.
Non, c'est pas ça, c'est pire que ça, c'est bon.
Ah oui, d'accord.
Sans méchanceté. Bah, non, du sport, il y a un quiz là.
Nous avons un collaborateur qui nous quitte. Nous allons passer en vitesse lumière, s'il te plaît. Accroche ta ceinture. Donc, nous avons un petit quiz car, comme c'est une spéciale SF, c'est assez marrant de contrôler un peu notre culture geek de SF, laser, tout ça. Donc, nous allons commencer avec un petit quiz sur les armes dans les œuvres de science-fiction.
Les armes ?
Oui.
Ok.
Ah, m'inquiète, vas-y.
Ça peut être arme à projectile ou autre.
Bon.
Alors, si je vous dis. Alors, il va falloir. Je vais vous donner le nom de l'arme. Non, généralement, c'est assez célèbre et vous me dites l'œuvre dans laquelle elle apparaît. On va commencer facile, c'est sabre laser.
Ouais, Star Wars.
Mais j'ai pas eu le temps de le dire.
Le phaser.
Ah, ça, c'est Star Trek. Star Trek,
voilà. Ouais. Le blaster.
La folle histoire de l'espace.
Non.
Non, c'est un peigne géant.
Il faut savoir que le blaster est revenu dans plusieurs œuvres, mais il a été surtout célèbre. Normalement, c'est des rayons rouges qui sortent avec dans des.
Ça doit être Star Wars.
Oui, voilà, exactement. Il y a un piège de Star Wars. Le rayon delta.
Ça c'est facile. Ah mince. Oh non. Cobra.
Voilà.
Space Adventure Cobra.
Le marteau de Thor.
Ah bah et ça c'est Thor, c'est l'un des personnages que l'on retrouve dans la Ligue des Justiciers.
Ah non, c'est pas de la SF ça.
Non, c'est pas celui-là, c'en est un autre.
C'est la SF quand même, les trucs de super-héros.
Non mais c'est pas dans celui-là, c'est dans l'autre.
Ah punaise.
C'est dans une manga quoi.
Non, c'est dans une série télé. Le marteau de Thor.
Non, ça peut pas être Goldorak.
Non, une série télé, télé live.
On passe.
Ah, c'est une race d'extraterrestres qui s'appelle les Asgard. Qui est de la Terre. Avec des portes qui peuvent téléporter dans la galaxie.
Oh bah, ça y est, je sais. Stargate.
Le nom complet, s'il te plaît.
Stargate et Zion.
Voilà. C'est tout pour ce petit quiz, il y en aura d'autres.
Oui, il était pas évident. Hein. On peut pas franchement faire les fiers là.
Mmh. vient de frôler une super boba là.
On va parler d'une vieille série que je suis sûr que tu connais, c'est obligé.
Qui est réapparu au cours d'un trou noir. Oui, oui, la vieille série, mais je l'ai sous les yeux, tu m'étonnes.
Là, ils sont dans le néant absolu en ce moment. Alors, une vieille série, c'est un peu méchant quand même parce que c'est... Vraiment, c'est un des classiques de la bande dessinée. Il s'agit de Valérian et Laureline. Le titre originel, c'était Valérian, agent spatio-temporel. Et c'est devenu Valérian et Laureline, ex-agent spatio-temporel. Puisque ben, vous allez découvrir un peu ce qui s'est passé dans ce petit dossier. C'est difficile de définir une série qui a eu un impact aussi important. Humoristique, un background très inventif, mais teinté d'un discours social sans être moralisateur. Valérian et Laureline est une série qui a marqué la bande dessinée française juste avant mai 1968 et le film de Stanley Kubrick 2001, l'Odyssée de l'espace. Et ceci alors que Paco Rabanne rhabillait déjà la haute couture en aluminium et plastique. Une révolution dans le genre, car la science-fiction n'a jamais été traitée de cette manière auparavant dans la BD en France. La maquette la plus classique, un trait souple, loin des fioritures nerveuses de Druyer ou de l'aplat brutal de Moebius ou de Bilal. Le texte poétique est d'une variété rare. C'est une valeur sûre car elle a plutôt bien vieilli. Christin et Mézières signent au printemps 1968 leur première histoire commune. 30 pages parues dans le journal Pilote, où le trait est déjà personnel, l'humour raffiné, Valérian est là, mais sans Laureline. Du moins au début, l'agence spatio-temporelle du 28e siècle connaîtra sa moitié au 11e siècle, au risque de créer un paradoxe dans l'espace-temps. Tout est là, la coupe des costumes métalliques, un premier temps emprunté à la garde-robe de Flash Gordon, les expressions « par l'espace-temps !» les animaux bizarroïdes, les humanoïdes, la magie, les gadgets James Bondesque, le chef de service. Peut-être ton manichéen au début, Laureline est une âme pure et Valérian le prince à une noble cause. Le roman courtois avec Albéric l'enchanteur, le maître d'armes, disons un poil précis sur le timing. Premier album, La Cité aux eaux mouvantes. On apprend que Galaxy City, le nouvel ordre terrien, est bâti après un terrible cataclysme, l'explosion d'un stock d'armes nucléaires au pôle Nord en 1986. Retenez bien cette date. Le survol de New York et le désespoir des survivants donnent un coup de fouet fabuleux à la série naissante. La vision de la plus grande cité envahie par les eaux et une végétation tropicale, décadence de la civilisation. Et l'obligation de respecter une trame historique, la découverte fortuite de certains documents devenus historiques. Publié à l'époque du fameux incident Apollo 13, l'Empire des Mille Planètes brise un tabou de la science-fiction. Le sacro-saint voyage habité vers de nouvelles civilisations qui s'y tournent à l'échec et au cauchemar. Les systèmes nénotechniques d'apprentissage de langue ne permettent pas une intégration réelle. On assiste aussi à une véritable intrigue politique. Le Pays sans étoiles, le troisième album, est à ma connaissance la première apparition dans la série Valérian et Laureline de ce délicieux mélange de tendances politiques bitniques et libertaires. Une planète creuse où lutte à mort deux civilisations, une patriarcale, une autre matrimoniale. Épineuse situation où nos agents vont créer un consensus plus efficace que les conciliateurs de l'ONU. Bienvenue sur Aflofol parle d'un aspect du colonialisme assez amer pour la France à cette époque, le respect des populations autochtones. Nous sommes au cœur d'un autre problème de choc de culture. Les oiseaux du maître ou le concert du totalitarisme vaincu par la méditation transcendantale, le cauchemar du navigateur, le cimetière des vaisseaux, la mer des sargasses intergalactiques. Une vision hallucinante, horrible, dont l'aspect grand public sera conservé par une très élégante pirouette. L'ambassadeur des ombres marquera vraiment la crédibilité de l'univers, un point qui est vraiment la référence de la série, point central entre l'ONU et le port franc, le symbole du méli-mélo de l'univers connu. C'est un peu avant l'heure Babylon 5. On y retrouve aussi d'autres personnages qui vont vraiment revenir de manière très récurrente dans la série, les impayables Shiguns, personnages aux mœurs absolument immorales, continuellement alcoolisés, mais absolument attachants, et d'autres peuplades très mystérieuses. On Durant l'escale sur les terres truquées, la série arrive à une certaine maturité scénaristique et graphique. Mézières affine son trait tandis que Pierre Christin éclate le couple. Les premières pages sont absolument explosives dans le traitement de la série. L'album à part, car une vision surprenante s'ouvre pour Valérian et Laureline. Une sorte de musée avec des reconstitutions grandeur nature des scènes historiques de la Terre, où un Valérian à espérance de vie limitée vient troubler le jeu. En fait, deux femmes mènent le train. Laureline est une historienne féministe, Amazon pistant le truqueur, un esthète du temps. Une partie des histoires était trop courte pour paraître en album, notamment dans le magazine Super Pilote, qui était des numéros spéciaux à l'américaine qui sont sortis courant des années 70. Elles furent compilées dans Par les chemins de l'espace, 6 nouvelles du meilleur cru de la série, édité en format poche. À côté de cela, sort peut-être l'album le plus second degré de la série, Les héros de l'équinoxe, où Valérian se trouve représenter les intérêts terriens, on ne sait comment. Une excellente parodie des super-héros américains, et plus particulièrement des 4 fantastiques. La mise en page suit d'ailleurs une expérimentation graphique assez notable, expliquée dans la revue 9e art numéro 13, dont on a parlé il y a 2 semaines. Deux albums pour une seule aventure, Métro Châtelet direction Cassiopée, suivi de Brooklyn Station Terminus Cosmos. Unis par liaison télépathique, les deux héros, Valérian sur Terre et Laureline dans l'espace, sont tous les deux séparés entre l'espace et le temps. Valérian découvre la Terre de la fin des années 70, époque où il est totalement déplacé. Vous m'étonnez, il est en plein giscardisme. Avec un châtelard truculent, tandis que Laureline cherche désespérément des indices dans l'infini. Le plus profond psychologiquement, l'histoire la plus complète dans tous les sens du terme, sur les 4 dimensions. À mon avis, celle par laquelle il faut commencer parce que c'est justement la plus aboutie. Puis arrive 1986, la fameuse date fatidique où une explosion thermonucléaire fait table rase de la civilisation humaine pour mieux créer Galaxy City. Heureusement, la prophétie des auteurs restera fiction, quoique Tchernobyl, on est bien d'accord, mais de sacrés bouleversements avec le lézardage du bloc de l'Est commencent à se profiler. Les auteurs font dériver leur propre série pour la restimuler. Les spectres d'Ian Verloc montrent Galaxy City ravagée, se dissolvant dans le temps, puni d'avoir influencé son propre passé. Bientôt elle n'existera plus. Et le chef du service spatio-temporel, le chef de Valérian, rejoint les deux agents, ultimes survivants d'une époque qui n'existera pas. La conclusion dans les foudres d'Ipsis se révélera totalement surprenante, revisitant une des bases de notre civilisation occidentale, la religion. Le final, totalement décalé, est considéré par les fans comme le tournant de la série. Car désormais, Valérian et Laureline sont livrés à eux-mêmes dans l'immensité galactique. Sur les traces d'un fou qui veut détruire la Terre, le meilleur ami de Valérian, c'est l'album Sur les frontières, se trouve justement un traitement de même qualité que Métro Châtelet, et en même temps une action qui se déroule de zone franche en port franc sur Terre, Valérian, Laureline et Châtelard dans une situation périlleuse. On aime par son côté assez mûr. Un scénario quasi adulte. Nos deux héros ne la ramènent pas trop dans leur combinaison spatiale argentée, brillante, leur vaisseau spatial tout rutilant. Bah oui. Obligés de trafiquer pour survivre et ne pas devenir des clochards de l'espace, la Terre ayant disparu au 29e siècle, ces vestiges fondent dans le néant, et leur équipement high-tech n'étant plus entretenu, court à la ruine. Les armes vivantes, c'est un album où des individus deviennent malgré eux outils d'une guerre éternelle et vaine. Notre couple tant aimé se trouve côté trafiquant d'armes avec de sérieuses questions sur leur propre moralité. Album suivant, Les Cercles du Pouvoir, un petit clin d'œil à l'incal de Jodorowsky et de Moebius. Un vaudeville politique intersidérant permet de revenir sur certains points effleurés dans le précédent album. Le pur délice de la lutte des pouvoirs. Les Outrages de l'Ultralume, suivi de l'album L'Orphelin des Astres, Laureline est enlevée avec un petit prince infernal, la plus grosse prime de l'univers, et proposée pour aller chercher ce prince d'un émir du pétrole galactique. Mais ce qui fait courir Valérian, bien évidemment, c'est l'amour. On peut râler sur le dessin un peu rapide, mais pas sur le retour à point central, la réapparition de Jal, des Shiguns et du transmuteur grognon de Bluxt. Et enfin, la belle vue des formes généreuses de Laureline. Cela ne s'était pas produit depuis un poster qui était paru dans Playboy en 82. Un allègement dans l'atmosphère de la série qui tente par même de recueillir un public plus jeune. Hélas, Les auteurs, à partir de là, ajouteront bien peu d'éléments nouveaux à leur fantastique univers. On ressent leur lassitude. Et un clin d'œil involontaire à Tintin et l'or noir fait d'ailleurs penser à Hergé, qui avait eu une grosse dépression en 48, justement pendant la production de cet album. Par des temps incertains et peut-être une ultime tentative de rétrofuturisme, celle de faire avoir lieu la catastrophe de 86, celle qui allait donner la naissance à Galaxity. Un complot de plus pour un retour vers un futur, une aventure contradictoire pour le couple d'ex-agents spatio-temporels d'un 28e siècle qui n'a plus lieu d'être. Les divinités de la planète Ipsis mettent une fois de plus leur nez dans les affaires terrestres, et celle d'une multinationale, Vivaxis, prête à vendre l'éternité par abonnement comme l'eau courante au robinet. Des allusions politiques aussi fortes que celles des aventures sorties dans les années 70. Sauf que le final armageddonesque ne peut avoir lieu. Alors les auteurs jouent avec l'espace-temps très malléable et la faille qu'ils ont eux-mêmes posée dans leur histoire. Avec des sorties de plus en plus espacées, les fans de la série Valérian et Laureline se demandaient si le duo Jean-Claude Mézières au dessin et Pierre Christin au scénario allaient passer la main ou laisser la série en suspens. C'est finalement l'idée d'une dernière aventure en trois albums qui sera choisie par Christin et Mézières devant un constat angoissant. Au bord du grand rien, le néant absolu ou même le cosmos n'existe plus et tout est possible en même temps. Le seul endroit que Valérian et Laureline n'ont pas exploré, qui serait peut-être l'ultime présence de la Terre qui a vu naître Valérian, la police spatio-temporelle et la glorieuse Galaxity. L'Ordre des Pierres, deuxième album du triptyque final, est sorti lors du dernier festival d'Angoulême. Brouille encore plus les pages, les cartes, les intrigues et les personnages. Elle laisse entrevoir un final très fort. L'Ouvre-temps sera le dernier album. Il paraîtra probablement en 2008-2009 et sera très probablement le dernier tome de la série, de l'aveu même des auteurs. Alors Valérian va-t-il vivre le rêve qui l'obsède depuis les débuts, celui de mourir à Galaxity alors que celle-ci a disparu dans l'espace-temps ? Je vous laisserai le découvrir justement sur le final. Donc l'Ordre des Pierres, c'est le 20e tome, il vient de sortir, toujours chez Dargaud. Et je ne saurais être complet sans ajouter le Mézières Christin avec. C'était un bouquin qui est régulièrement réédité depuis 83, avec l'épisode originel, donc celui où Valérian découvre Laureline. Les récits autobiographiques, puisqu'on apprend que Mézières a eu une carrière de cow-boy. Christin, lui, a une carrière aussi de professeur à côté à l'IUT de journalisme de Bordeaux. Ils ont ensemble d'ailleurs scénarisé et dessiné chacun de leur côté. Christin, on en parlait tout à l'heure dans l'interview de Bajram, a fait l'excellent Partie de chasse avec Enki Bilal. Et à côté de cela, on a aussi d'autres bouquins qui sont assez intéressants. C'est pour vraiment ceux qui sont fascinés par cet univers. Il y a Les Habitants du Ciel, un complément indispensable à votre guide du retard galactique, écrit de manière source book. C'est-à-dire que c'est un bouquin que l'on a extrait de l'univers et que l'on vous met dans les bras. Les extras de Mézières, avec beaucoup de dessins inédits, une preview d'un hypothétique dessin animé, un projet qu'ils ont eu depuis 79 et qui a été maintes fois relancé, et sur lequel ils ont pas mal travaillé sur les techniques d'animation vidéo et de trucage vidéo. Et le deuxième tome, Les Extras de Mézières, reprend les travaux sur le film Le Cinquième Élément, ainsi que des collaborations occasionnelles à des revues de jeux de rôle comme Casus Belli. Et pour avoir un regard externe, il y a eu un Dragon Magazine, c'était le quatrième numéro, en janvier 94, si vous le trouvez, bonne chance, mais dans lequel justement on découvre pas mal de choses, il y a pas mal d'éléments qui ressortent en plus de la série. Quant à Valérian, figurez-vous qu'il s'est fait parodier avec élégance dans Cosmic Roger de Mo CDM. Il y a 10 ans, moi je me souviens, c'était au Festival d'Angoulême, la queue était monstrueuse pour le tandem de dessinateurs. Et par hasard se trouvaient juste en face Moebius et Bilal. J'ai entendu cet échange, un fan qui demandait aux auteurs l'autorisation de les photographier. Oh oui, vous pouvez, tant qu'on est présentable. Quand on pense que Laureline est toujours aussi belle, et ce fringant Valérian toujours aussi con. Je vais y arriver, c'était un peu lu, je suis désolé. Donc le 20e Valérian et Laureline, l'ordre des pierres, est sorti toujours donc chez Dargo. Et le dossier complet que vous venez d'entendre, c'est un dossier qui avait déjà été présenté sur cette antenne en 97, qui a été réécrit pour l'occasion et qu'on mettra sur le site internet de l'émission.
Ah d'accord, tu recycles.
Ouais, non mais attends, il n'y a pas de mal. Tu crois que j'ai que ça à faire en semaine?
Putain, je vais reprendre mes anciennes chroniques moi aussi.
Non, ça a été bien réécrit, attends. h 45 52 secondes sur la poubelle des radios, sur notre horloge atomique, c'est le supplément week-end sur Radio Éphémère. Bell, Scats on Mars, remixé par le DMX Crew, qu'on entend très fugitivement dans la série animée Cowboy Bebop.
Ah,
eh oui, oui. Mais la version remix, à ce qui paraît, elle passe dans les derniers épisodes. Pas ça.
Ah si, on revient au quiz. Alors maintenant, nous avons un quiz Julien Lepers.
Ah merde, non.
Nous cherchons aujourd'hui un vaisseau spatial.
Oula.
Indice, chez vous. Attention. Top. Je suis apparu dans un film en 79 et comprends à mon bord 7 passagers, mon ordinateur central et maternel.
Nostromo
et... Bravo.
Ouais.
Voilà. Non, je finis le texte. J'oublie dangereusement aux signaux de détresse qui n'en sont finalement pas. Filmé par un jeune réalisateur britannique, je permis à la carrière de celui-ci de décoller bien avant des films comme L'âme de fond, G.I. Jane et Traqué. Je finis indemne le film, mais j'aurais été le théâtre des horreurs parmi les plus célèbres de la galaxie. Comprenant à mon bord des gens appelés Dallas ou H, un petit chat se promène également dans mes pièces suintantes. Une créature inspirée par un artiste suisse dessine progressivement tout l'équipage suite à mon atterrissage sur la planète.
D'accord, et t'as oublié de dire...
Sur la planète... Comment s'appelle-t-elle? La planète où ils trouvent l'alien?
Archon, non. Ou Archeron.
LV-426.
Mince.
J'appartiens à une célèbre série de 4 films, nanana, je suis le Nostromo.
Oui,
et oui, nous avons dit son Xavier,
oui,
j'ai oublié de dire quoi?
Qui c'est qui a fait le design des pièces à l'intérieur? Parce que tu as parlé de...
Certainement un auteur de SF français ou Ridley Scott lui-même.
C'est Moebius.
Voilà,
parce qu'en fait, il a plus ou moins recruté une partie de l'équipe qui avait monté Jodorowsky pour adaptation de Dune. Donc il y a Moebius dedans, et effectivement, il y a un auteur anglais, un illustrateur anglais spécialisé dans les couvertures de SF qui a fait le vaisseau, le design extérieur, et je ne sais plus, enfin, il y en a toute une poêlée, casting prestigieux, etc. Pas d'un coffin. On va entamer les bandes dessinées, il est 12h52.
Il n'y a pas beaucoup de sport de toute façon.
Non, non.
À ce point, bon, tant mieux. Je vais vous parler d'une série qui est très peu connue en France, alors que bon, son auteur est très connu, et c'est justement sa série la plus connue, celle-là, du moins dans son pays d'origine. Leiji Matsumoto, c'est le papa de Albator, bon, je vais pas le chanter en entier, j'aurais l'air ridicule. Galaxy Express 999, le tome 15 vient d'être traduit en France chez Kana. Et que dire? La première série Galaxy Express 999, les 14 premiers tomes étaient sortis entre 1977 et 1981. En 96, Leiji Matsumoto, avait déjà Albator et Esmeralda à gérer, relance une de ses séries phares qui a connu un immense succès, et c'est justement Galaxy Express. C'est pour ça que donc il y a un tome 15. Après le premier voyage dans le Galaxy Express de Tetsuro, Maetel retourne chercher l'adolescent, revenu sur Terre et condamné à être enchaîné pour l'éternité dans un puits de la planète artificialisée. Une fois de plus, désabusé par la Terre, une fois de plus, invité par cette mystérieuse jeune femme qui lui offre un ticket objet de toutes ses convoitises, le jeune homme Tetsuro reprend sa place dans le mythique train de la compagnie Galaxy Express, ligne 999. Mais cette fois-ci, au lieu de fuir l'empire des machines, sa destination sera éternel. Car en voilà de la science-fiction qui joue sur la poésie et se moque des codes du genre. Un train à vapeur qui vole de planète en planète vers une destination légendaire. À chaque escale, son lot de merveilles, de dangers et de leçons amères. Lors de son premier périple, Tetsuro a rencontré la sœur de Maetel qui est... Ça suit pas.
Esmeralda.
Ouais, c'est noté en dessous. Il a aussi rencontré l'amant d'Esmeralda qui est...
C'est Alfred.
Ouais, en VF, donc c'est Toshiro en version originale, le créateur et esprit de l'Arcadia qui est le vaisseau de...
Albator.
Voilà, on va y arriver. Bref, on suit avec toute la mythologie de Leiji Matsumoto qui s'amuse à brouiller tout le monde sur une éventuelle chronologie et les relations entre chaque personnage. Comme d'habitude, très fin mélomane, ce dernier n'a pas pu s'empêcher d'y mettre une référence musicale à...
Non, je te le dirai pas. Non, pas Daft Punk, non.
On aurait pu croire hein, quand même à cause de Interstellar 5555, mais non à la tétralogie de Wagner, puisqu'il a fait une adaptation de la tétralogie de Wagner avec tous ses personnages. Il y a même le Galaxy Express dedans. Enfin bref, cela amplifie encore le côté fuite en avant et l'aspect dramatique. On y trouve notamment dans ce tome 15 un étonnant moment de poésie de désespoir. Adieu et embrasse bien le futur pour moi, fait l'habitant d'une planète, à Tetsuro, lequel pense. C'est le genre de phrase que prononcerait quelqu'un qui n'a pas de futur. Une science-fiction mélancolique qui fait étrangement penser à Corto Maltese, mais absolument superbe. Leiji Matsumoto, Galaxy Express 999, le tome 15, donc le premier tome de la nouvelle série, vient de sortir chez Kana. Ouais, j'ai été assez salaud pour avoir mis du Vangelis déjà dans l'introduction.
Pourquoi salaud ?
Parce que j'avais dit que j'allais pas mettre de la musique électro-futuriste des années 70.
Ah. Tant que c'est pas du Jar. Hein.
Maurice ? Jean-Daniel ?
Non, JP.
Ah.
JM.
Oui. JP ? Non. C'est peut-être une série qui est très peu connue et c'est bien malheureux. C'est une bande dessinée, là aussi, assez flamboyante comme type de science-fiction. Et je vais dire, oula, ça fait voyager, mais en même temps, c'est assez adulte. François Bourgeon et Christian Lacroix écrivent ensemble le scénario et font le dessin. Et ça s'appelle Le Cycle de Cyan. Le tome 4 s'appelle Les Couleurs de Marcade et vient de sortir chez Vent d'Ouest. Cyan est une fille d'Aristo de la planète Hall, et elle était partie en expédition sur la planète Hilo. Là, elle a fait une rencontre inattendue, celle de la Voie de la Sagesse, alors que c'est une vraie tête à claque quand même au début de la série. Et les maîtres du réseau des portes ont fait d'elle une clé. Cyan peut désormais utiliser les portes. Tiens, c'est marrant, ça me fait penser à une histoire Stargate, non ? Pour sauter de planète en planète. À 1000 années-lumière de Hall, son monde natal, elle se matérialise sur Marcade, où elle manque de se faire violer par des vigiles. Cyan n'arrive pas à faire entendre sa cause, à faire comprendre sa situation aux autorités. Pourquoi les habitants lui font la sourde oreille ? Alors, parce que toute interaction avec une autre personne est facturée. Les fameuses couleurs de Marcade sont celles qu'affiche un individu pour ses tarifs de dialogue. Un peu comme si les concierges et les psys avaient des enseignes de taxi en guise de couvre-chef. Dans ce monde de fous, Cyan va devoir bien évidemment se faire une place et tenter de s'intégrer pour comprendre cette planète, dans l'espoir de rentrer chez elle. Des personnages tous tête à claque, des individus psychologiquement fouillés, une société très riche, le dessin irréprochable de l'auteur des Passagers du Vent et un paysage très détaillé rendent la série très crédible. À l'image de Sillage qui développe aussi une science-fiction intelligente et qui réclame plusieurs lectures, l'univers décrit est si vaste qu'on se fait plaisir à relire chaque planche à la loupe pour trouver chaque création. Seulement, cette série a une autre histoire. Quand Casterman a été racheté par l'éditeur italien Rizzoli, les auteurs qui bossaient sur le troisième tome et avaient sorti un très bel atlas, un autre databook, ont refusé de continuer à honorer leur contrat étant donné une gestion jugée fantaisiste des obligations de l'éditeur. Cela a mené à un procès où les auteurs de Cyan ont d'abord été condamnés, tenez-vous bien, à 1000 euros d'astreinte par jour de retard sur l'album. Un foin énorme qui a fait perdre énormément à Casterman puisque de nombreux auteurs les ont fui. Finalement, Cyan continue ses aventures chez Vent d'Ouest et Casterman, depuis, s'en est un peu remis. François Bourgeon et Christian Lacroix, le cycle de Cyan, le quatrième tome, s'appelle Les Couleurs de Marcade et vient de sortir chez Vent d'Ouest. On va passer à Jean-David Morvan, au scénario, scénariste entre autres, ex-scénariste, excusez-moi, de Spirou, mais scénariste justement de Sillage dont on a parlé. Et Francis Porcel au dessin, reality show. Le quatrième tome vient de sortir chez Dargo, Reconquista Channel, alors qu'au départ il était prévu uniquement 3 tomes. Je suis trompé de plage. Ça arrive. Mediacorp est un producteur de télé espagnol, ça me fait un peu penser à Endemol dans le nom, qui a réussi le coup ultime qui rassemble audience et abonnement payant, mélanger Real TV et séries policières. Bon, c'est simple, suffit de demander l'exclusivité de l'enquête sur des meurtres réels et donc d'y mettre ses propres enquêteurs avec les caméras. Oshii Feal, jeune aspirante policière, s'est ainsi retrouvée à devenir l'assistante de sa télé-idole favorite. Et du même coup, elle doit résoudre des affaires policières sur fond de tractations, de showbiz et de coups tordus dans les backstage. Dans les deux premiers tomes, elle s'en est sortie grâce à son innocence, mais pas intacte. À son insu, une intelligence artificielle a implanté en elle des sortes de mouchards, une aubaine magnifique pour les producteurs, parce que les réactions du public seront forcément plus naturelles en l'absence des caméras volantes. Oshii Feal, héroïne de l'histoire, ne sait donc pas qu'elle est on air 24h sur 24, 7 jours sur 7, mieux que Elle Série et Télé Sarkozy. Et que les producteurs tentent en vain d'en valider le concept auprès du CSA espagnol. Alors qu'elle est partie en vacances incognito à Grenade, superbe ville du Sud qui a symbolisé la lutte entre les catholiques et les musulmans à la fin du 15e. Mais en ce milieu du 21e siècle, les deux communautés se regardent toujours en chien de faïence depuis l'élection d'un maire musulman. Deux groupes terroristes, un intégriste, un musulman, l'autre intégriste catholique, mettent la région à feu et à sang et la fille du maire vient d'être kidnappée. Oshii se rend compte qu'elle ne reconnaît pas la ville de son enfance et elle ne sait pas encore qu'elle entre dans un deuxième reality show, encore plus ignoble que le premier. Rien à redire sur le scénario de Morvan, assez politique et qui donne bien qui dose bien les dialogues et l'action dans cet album. Quant à Francis Porcel, il met en scène le futur de son pays avec talent. Cet album a une double lecture, celui d'enfoncer le monde de la télévision, univers des paillettes et du superflu, mais aussi celui de la politique et de la religion, univers des dogmes, des croyances et de la déformation des idées. Jean-David Morvan au scénario, Francis Porcel au dessin, reality show, tome 4, Reconquista Channel. Vous venez d'entendre, il est 13h02 sur la poubelle de radio sur le supplément week-end. Il y a d'autres séries à parler, il y a les Gardiens du Macer dont le nouveau tome vient de sortir, on en parlera une autre fois. Womox, dont on n'aura pas un prochain tome de sitôt. La Guerre Éternelle est à l'Asbar, absolument superbe. Biotope, dont on a parlé il y a 2 semaines. Orbital, qui est sorti il y a environ 1 an. Et Planète, qui est une série manga. C'est d'ailleurs la seule série non européenne de notre sélection qu'on a faite. Puisqu'il n'y a pratiquement que la BD franco-belge qui a été sélectionnée cette semaine. On mettra toutes les références dans le supplément week-end sur le site internet de la radio.
Xavier, nous sommes peut-être sur la poubelle des radios, mais nous sommes aussi sur la poubelle des vaisseaux, car notre machiniste préféré est encore allé dans la soute pour voir réparer les turbopropulseurs.
Et il va revenir, il va revenir.
Ah, le voilà, le revenu.
Le revenu, le revenu. Pourquoi ? Parce que tu penses que là, il y a encore quelque chose qui va nous tomber sur la gueule dans le genre absolument insupportable ?
Ah oui.
Oh non, encore un quiz !
Un petit quiz pour changer. Cette fois, nous allons nommer des planètes. Je vais vous citer le nom des planètes et vous me dites à quelles œuvres elles appartiennent. On va commencer facile. Vulcain.
Star Trek.
Altaïr 4.
Cosmos 99.
Non.
Si, je crois, savoir sans Kukai.
Non, c'est un vieux film, c'est un vieux film de SF avec un robot.
Ah, La planète interdite.
Voilà.
La planète interdite.
Arrakis.
Dune.
Glen Dattu.
Star Trek.
Non.
Bah, dans Star Wars.
Non, Glen Dattu, c'est dans un film de 97. Fait par un hollandais.
Oh, ça y est, je crois avoir.
Starship bouze. Trooper.
Oui, c'est ça. C'est la planète des arachnides.
Et tu les notes ces points, j'espère. Hein.
Endor.
Ah bah ça, c'est dans Dune.
Non.
Non, c'est dans.
La stratégie d'Endor.
C'est c'est dans Star Trek aussi.
Non. La lune forestière d'Endor.
Oh mince, c'est pas une planète, c'est une lune.
Oui, bon, ça peut être considéré comme
non,
une planète.
Non, parce qu'il y a Endor dans Dune, justement.
Ah. Endor.
Ah bah oui, bah c'est dans Star Trek, c'est dans Star Wars.
Star Wars.
Star Wars.
Et Fiorina 21.
Hein?
Fiorina 21.
Le guide du routeur galactique.
Non.
Je
peux vous dire que ça désingue du monstre, mais à la toque. C'est la planète mère d'un célèbre monstre de l'histoire du cinéma. Apparaît dans un film de 1986 réalisé par James Cameron. C'est une suite.
Terminator.
Non,
on en a parlé tout à l'heure, Alien.
Voilà, ça apparaît dans Aliens le retour, justement. Voilà, c'est tout.
D'accord, ok.
Donc, on va décréter une légère avance à Xavier, mais ça se tient.
Ça me fait plaisir.
Ah, puisque c'est comme ça, moi je vous propose une petite rareté du sport. Je crois qu'on va parler de séries anglaises.
Ouais.
Alors, dans ce cas-là, moi j'ai un résumé d'une série anglaise fait par Mosinor, un célèbre détourneur sur le net. Vous allez voir, c'est énorme.
Alors voilà le topo, on est perdu dans l'espace depuis le 13 septembre 99. Et on a bientôt plus rien à bouffer. Ah si, il reste des œufs.
Et même si on sait très bien qu'on va tous les trois dans le mur.
Ouais bah ça va, ça ne s'empêche pas
de vivre plein d'aventures.
Et même si au niveau garde-robe, on a que du pyjama. Bah c'est des Yuji Yamamoto et des Asdinalaya. Et puis pour s'occuper de l'ordinateur, des logiciels et programmes, bah c'est vraiment pas terrible hein. On a juste le professeur Bergman.
C'est moi. Et oui, car depuis le 13 septembre 99, on n'a pas compris ce qui s'est passé, mais il y a eu une catastrophe. Et maintenant, on est coincé dans l'espace sur cette putain de lune. Saloperie de putain de planète, sa mère, la pute, la lune, l'orbite, fusée où tu peux la mettre.
En trou noir. Avec une équipe de
Cosmos 99.
On va parler de British en collant maintenant.
Je peux vous dire que ça fait peur. Avec un kilt déjà, un écossais, c'est pas mal.
Avant d'évoquer quelques séries anglaises de science-fiction, bon, il y a bien entendu les fleurons du genre qu'on évoquera à peine. Hein. Il s'agit bien entendu de Doctor Who, dont on vous parle pratiquement toutes les semaines.
Non, on n'en a jamais parlé ici, de toute façon.
Juste avant, Cosmos 99, c'est également une série anglaise, hein, initiée par Jerry et Sylvia Anderson. On va parler des autres séries de Jerry et Sylvia Anderson qui sont un petit peu moins connues, à part les Sentinelles de l'air. On parlera pas de Red Dwarf, qui est la série rigolote dans l'espace par excellence.
Ouais, très très peu diffusée en France, excepté sur certaines chaînes.
Ouais, mais
du
qui est un monument outre manche, hein, de toute façon, quoi. Avant de parler de ça, deux petites choses qui ont à voir avec les séries. Déjà, la sortie de ça que vous pouvez trouver dans la kiosque avec le DVD correspondant, c'est Star Trek, la série classique, le numéro 1, numéro 2, déjà aussi en circulation. L'édition collector, édition originale, hein, c'est des trucs, genre, c'est comme les trucs Atlas, là, pour ne pas les nommer, quoi, tu sais, tu commences la série, c'est pas cher, et puis au fur et à mesure,
ça devient
relativement cher. Sauf que là, ben, c'est vraiment, CBS, c'est-à-dire
le producteur,
la chaîne de télé qui possède les droits sur Star Trek, surtout sur la série originale, eh bien qui édite ce truc-là. Hein. Donc c'est du sérieux. En plus, ce sont les épisodes plus ou moins dans l'ordre, on va dire. Bon, ce qui manque sur le numéro 1, ben c'est les deux premiers pilotes qui avaient été tournés, dont celui avec Jeffrey Hunter, hein, c'est-à-dire
oui, au départ où Leonard Nimoy est censé être le capitaine de vaisseau,
voilà.
Et puis. Enfin, je sais plus ce qu'il y a d'ailleurs en plus.
Ils seront édités un petit peu plus tard, hein, d'après ce qui est marqué. Par contre, avec le DVD, le petit livret très complet avec tous les détails. Dans le numéro 1, t'as carrément le plan de la passerelle de l'USS Enterprise. Là, t'as le plan également de l'intérieur de Phaserius, le Phaserius de la Première Fédération et tout ça, parce que il y a 3 épisodes donc. Où l'homme dépasse l'homme, c'est Mitchell qui commence à péter les plombs. T'as fausse manœuvre également, et t'as 3 femmes dans un vaisseau. C'est génial, les nanas et tout qui commencent à draguer tout l'équipage et tout. Il est pas mal cet épisode.
Ouais, tu sais qu'à l'époque ça avait fait un immense foin parce qu'il y avait une nana dans l'équipage et qu'elle était noire. Ça, on pouvait pas comprendre. C'était les États-Unis. Hein.
Ouais, ben justement, dans ce premier numéro, tu as également une rubrique tout à la fin qui s'appelle À la frontière, qui parle justement des gens qui ont écrit pour Star Trek, hein, qui ont initié la série à côté de Gene Roddenberry. Est également un truc assez rigolo qui dit que très souvent on voyait justement Nichelle Nichols, la blague dont tu parles, et Majel Barrett, qui est devenue Majel Barrett Roddenberry par la suite, hein, puisque c'est elle qui a hérité de tout l'héritage, et on la voit d'ailleurs dans les autres séries dérivées de Star Trek plus tard, qui faisait souvent l'aller-retour du plateau de studio au bureau du producteur. Oh, les mauvaises langues. Bon, tout ça, enfin bon, pour devenir un Trekkie confirmé, il faut commencer par ça, il faut y passer de toute façon.
Et combien d'épisodes? 3 épisodes par DVD?
Il y a 3 épisodes par DVD, alors en version française, version anglaise. Hein,
sympa, bon, au moins c'est un minimum.
Ouais, c'est un minimum, c'est CBS hein, qui édite, hein, c'est pas un obscur éditeur belge.
Donc ça veut dire que déjà ils disposent des versions master et rééditées, puisqu'ils ont été restaurés récemment.
Oui, c'est des éditions remasterisées. Attention, hein, c'est pas un truc copié sur la télé, sur ton magnétoscope. Pas du tout. Voilà, en ce qui concerne Star Trek, bon voilà, on est en plein dans la SF. Ce qui est pas du tout SF, mais moi c'est quand même l'image que je retiens de l'une des meilleures séries qui est diffusée actuellement sur la télé. C'est Nip Tuck, bien entendu, avec l'image dans le premier épisode lundi dernier de Larry Hagman qui vient se faire enlever sa pompe à bite chez le docteur Troy. Rien que pour ça, cette série devrait être vue, je dis pas dans les écoles, mais bon, presque quoi. Passons à présent aux séries SF anglaises. Alors il faut dire que c'est une tradition qui remonte quand même à vachement loin.
C'était quoi le rapport à Nip Tuck?
Simplement que c'est une des meilleures séries actuelles, c'est tout quoi.
Ah d'accord.
Rien à voir avec
SF. En fait, il y a toute une série, un truc sur ASF. Il y a juste un truc qui appartient pas à l'ASF. Nip Tuck.
Nip Tuck, exactement.
D'accord, je pensais qu'il allait d'autres.
C'est un chant traditionnel.
Non, mais bon, quand même classe quoi, tu vois. Okay. Classe. Hein, c'est la scène de la semaine quoi, tu vois, la scène dans une série de la semaine.
C'était sans, la pompe à bits de Nip Tuck.
Okay. La pompe à bits de Larry Hagman, hein, alias JR. Hein. Parce qu'après, il veut les voir baiser tous les deux, tu vois, c'est un vente. Je te passe les détails.
D'accord. Ça s'arrange pas.
J'ai pas pris les plus vieilles hein, de la BBC, parce que la BBC est une old lady, il faut le savoir quand même. Mais j'ai commencé par celle qui est un petit peu fait figure un petit peu de grand-mère de toutes les séries de SF britanniques. Qui a d'ailleurs donné lieu par la suite à un culte, vu que cette série a été sortie dans les années 80, mais sous la forme d'un film, à la suite, et que ce film a connu un certain succès. Je veux bien entendu parler de Quatermass, le professeur Bernard Quatermass, écrit par Nigel Keel. Alors c'était à l'époque dans les années 50, début des années 50, et le script editor de la BBC cherchait des jeunes talents pour écrire des nouveaux trucs, de nouvelles idées pour de nouvelles séries. Et à l'époque, il payait pas cher, hein, parce que il a embauché Nigel Keel qui a écrit donc le scénario original, ainsi que tous les scénarios de tous les Quatermass originaux, pour 250 livres par an. À l'époque, déjà une certaine somme, mais enfin bon, vu ce que ça a
généré en droit,
généré un petit peu plus tard, il a été largement payé. Le premier Quatermass, il sort en 53, c'est Quatermass Experiment, 6 épisodes en noir et blanc bien sûr de 30 minutes. Qui sont diffusés sur la BBC aux mois les plus propices, en juillet et en août, sur la BBC, avec dans le rôle principal donc de Bernard Quatermass, Reginald Tate et également Hugh Kelly.
En 1955, deux ans plus tard, sort Quatermass 2, 6 épisodes également en noir et blanc qui sortent en octobre et en diffusés en octobre et en novembre à la télé. Et là, le professeur Bernard Quatermass, il change de tronche, tout simplement parce que avant de commencer, quelques semaines avant de commencer le tournage du deuxième Quatermass, eh bien, Reginald Tate décède et donc est remplacé par John Robinson. En 58-59 sort celui qui est le plus connu, hein, celui qui a justement été restauré, été rassemblé en un seul film, le fameux Quatermass and the Pit, dans lequel, eh bien, c'est une troisième version, c'est donc un troisième acteur qui interprète le rôle du professeur Bernard Quatermass, André Morel. 6 épisodes en noir et blanc de 35 minutes, hein, et diffusé dans les mois de décembre et de janvier 58 et 59. Sort une quatrième version de Quatermass, et là, bien plus tard, hein, 30 ans, pratiquement 30 ans plus tard, en 79. Et là, non pas instillé par la BBC, hein, qui était au départ de cette aventure, mais par la grosse chaîne concurrente de la BBC, à savoir ITV. ITV, qui débauche bien entendu Nigel Knill, c'est-à-dire le scénariste original, pour une nouvelle série de ITV. En fait, ce sont 4 mini téléfilms de 60 minutes, couleur bien entendu, qui sont diffusés donc en 79, en octobre et en novembre, avec John Mills dans le rôle principal et Simon McCorkindale, qui est
Ah, c'est mis quelque chose, McCorkindale.
Manimal.
Ah oui.
Bien sûr, Manimal. Voilà donc pour Quatermass. Quatermass, par la suite, bien entendu, eh bien, ça a donné lieu à des séries flamboyantes. Je vais bien entendu parler de Doctor Who, hein, qui a été un petit peu également a suivi Quatermass dans le temps, puisqu'elle est sortie au début des années 60, mais fin des années 50, pratiquement en même temps, mais qui a donné un élan à toute la scène, à toute une bande, toute une équipe, que ce soit les écrivains, que ce soit les décorateurs, que ce soit tous les gens qui travaillaient autour de la BBC, autour de la chaîne de télé, pour fournir des programmes et qui se sont mis à formuler. Alors il y a différentes écoles, il y a l'école Doctor Who, où l'un des personnages les plus emblématiques, bien entendu, Terry Nation, c'est-à-dire le mec qui a créé les Daleks, hein, qui a un petit peu dynamisé, on va dire, la série Doctor Who, et qui a fait qu'elle a pu durer pratiquement aussi longtemps, parce que bon, il est à l'origine, pas à l'origine de Doctor Who, mais il a bien contribué à ce que la série perdure. Il est parti créer d'autres séries par la suite, on va y revenir, mais il est toujours resté un petit peu fidèle à cet esprit. Terry Nation, qui a également créé d'autres séries, donc une série qui est sortie en fin des années 70, début 80, qui s'appelle Blake's Seven, donc créé par Terry Nation, qui a là écrit tous les épisodes. Alors là, il s'est tartiné tout le truc. Putain. Et qui est un petit peu bien une variation sur le thème de Romain des Bois dans l'espace. Avec Blake, c'est Roche Blake, le chef d'une équipe de 7 bonhommes ou entités extraterrestres qui combattent la fédération qui a décidé de maintenir tout le monde dans une espèce de léthargie. On pense pas, on réfléchit pas et tout. Ils diffusent des drogues douces dans l'air pour que les gens soient bien passifs, ne se révoltent pas et tout. Enfin, c'est un petit peu l'esprit donc de cette série Blake Seven, hein, qui n'a pas connu tellement de succès, parce qu'en fait le personnage principal, Roche Blake, n'est personnage principal que dans la première saison. Dans la deuxième saison, c'est un autre personnage du crew qui devient lui-même plus exploité par rapport à Roche Blake, qui change également de tête au niveau l'interprétation d'acteur. Donc ça a foutu un petit peu le white. Mais à remarquer quand même que cette série, elle est sortie, elle a duré 4 saisons, hein, il y a eu 52 épisodes de 50 minutes en couleur, et ça a été sorti sur la BBC. Et le premier épisode, l'épisode pilote de Blake Seven, est sorti le 2 janvier 78, soit le jour de la sortie de Star Wars sur les écrans britanniques, le même jour, quoi, tu vois. On parlait avant de Cosmos 99, c'est bien entendu Jerry et Sylvia Anderson, hein, Jerry et Sylvia Anderson, Cosmos 99, c'était leur deuxième ou troisième essai dans le monde de la non-animation, c'est-à-dire bon, personnages réels et tout le bordel, Cosmos 99 avec Martin Landau et toute la bande, et dans les années 60, il va commencer dans les années 60 avec leurs fameuses marionnettes. Mais il y a eu des séries
Marionnettron.
Ouais. Mais ça, c'est dans les années 70. Attention, quoi, parce qu'au départ, c'est des marionnettes avec les fils, quoi. Les vraies marionnettes. Ok. Alors, la plus connue, c'est bien entendu les Thunderbirds, c'est les Sentinelles de l'air. Il y a également eu une tu l'as cité, Captain Scarlet and the Mystère 11. Là, c'était sorti.
Ça passe sur Cinéfix en ce moment.
Sur ITC en septembre 67, de septembre 67 à mai 68, à 32 épisodes de 30 minutes. Mais il y en avait vu bien d'autres avant et même après. Hein. Après, juste après, il y a eu Joe 90. Hein. Avec pareil 30 épisodes en 68-69. Un petit peu avant, ils ont commencé très tôt avec Supercar en 61-62, 39 épisodes de 30 minutes. Là, c'était en noir et blanc, mais pareil, hein, des tripes de marionnettes. Il y a également eu Stingray dans les années 64-65, 39 épisodes de 30 minutes. Toujours Jerry et Sylvie Anderson, toujours de la marionnette. Il y a également eu, dans le même esprit que Captain Scarlet, Fireball XL5 sorti en octobre 62 et en octobre 63, hein, 39 épisodes également, hein, avec c'est les aventures d'un équipage et de son vaisseau, avec le pilote Zodiac qui est le prototype du Bellâtre. Il y a Vénus, la toubib de l'espace, bien gaulée, tu vois, dont la voix est interprétée par Sylvia Anderson. En plus, il y a Mathematique, le professeur, et Robert le robot. Il y a également eu Joe 90, ça j'en ai parlé. Space Patrol en 63-64, 39 épisodes également. Hein. Et également d'autres séries outre Space 99, hein, qui est sorti dans les années début des années 80. Il y a eu également une série un peu plus récente initiée par Jerry et Sylvia Anderson avec des acteurs, hein, c'est-à-dire plus de l'animation. Alors au départ, jusque dans les années 60, jusqu'à la fin des années 60, ce sont les marionnettes avec des fils. Et au début des années 70, ils trouvent un nouveau système qui s'appelle Super Macro Motion. Et en fait des télécommandes, hein, c'est les premières micro-télécommandes, des trucs robotiques et tout. Bon, ça marche un petit peu pas trop bien, mais ça coûte hyper cher, quoi. Donc ce qui fait que le budget il explose, hein, pour produire des épisodes. C'est pour ça qu'ils sont un petit peu limités et qu'ils se tournent plus naturellement, on va dire, hein, sur les histoires traditionnelles avec des personnages réels, enfin bon, des acteurs. Et ils ont également sorti une série qui s'appelait Space Precinct dans les années 90, en 94. 24 épisodes de 60 minutes, histoire d'un flic qui se retrouve sur une cité de l'espace où il y a vraiment toute une faune pas possible. C'est l'endroit également où on fout tous les rebuts de la société, ceux dont on veut pas dans les autres planètes, et lui il est chargé de maintenir l'ordre dans ce truc là. Donc ça a duré 24 épisodes, donc, et ça a été diffusé quand même sur Sky One à l'époque. On a également d'autres séries, hein, toujours plus ou moins. Il y a une série Jupiter Moon qui est plus ou moins soap, space opéra, hein, qui a quand même duré 115 épisodes de 30 minutes. Hein, ça a été diffusé sur le câble dans les années 90, au début des années 90, une chaîne qui n'existe plus, qui a été bouffée par Sky, qui a tout racheté, qui s'appelait à l'époque Galaxy Channel. Ça s'appelle Jupiter Moon.
C'était pas sur le câble, c'était sur le satellite. Hein.
Au départ, sur le câble en Angleterre. Ouais, enfin bref, c'est créé par William Smethurst, et dans cette série Jupiter Moon, on suit les vies et les amours dans un collège de l'espace en 2050. Plus intéressante est quand même Out of the Unknown, produit par la BBC Two, et produit par Irene Shubik. Au début des années 60 quand même, au milieu des années 60, hein, il y a eu plusieurs saisons. La saison 1 commençait dans les années 65, et ensuite il y a eu trois autres saisons qui ont duré jusqu'en 71, avec quand même du lourd, hein, les histoires d'Isaac Asimov, de John Wyndham, Ray Bradbury, Robert Sheckley, John Brunner, Clifford Simak, Frederick Pohl.
Mais il y a toutes les stars.
Scénario, c'est-à-dire histoire adaptée par Clive Donner, Terry Nation, on le retrouve. Terry Nation, et là c'était une série qui était sortie, et après cette série il a commencé à travailler pour Doctor Who, quoi, justement Terry Nation. Donc dans Out of the Unknown, il travaille donc pour cette productrice Irene Shubik pour BBC Two. Et en fait, Irene Shubik avait instillé une année auparavant sur une chaîne concurrente, hein, sur ITC, quoi, avait instillé une autre série qui s'appelait Out of This World, donc pratiquement la même chose. Un système un petit peu différent avec un guest star qui introduit chaque épisode, comme c'était la tradition depuis la quatrième dimension avec Rod Serling qui présentait les histoires et tout ça. Là, c'est Boris Karloff qui était l'hôte, donc qui présentait des histoires, mais avec
pratiquement le même crew, hein, et on retrouve les histoires de John Wyndham, de Philippe K. Dick, une histoire de Philippe K. Dick, d'Isaac Asimov, l'histoire de Philippe K. Dick s'appelle Impostor, hein, dramatized by Terry Nation, bien entendu, qui écrit également dans Atop This World une histoire complète qui s'appelle Botany Bay, et qui adapte également une autre histoire pour Atop This World, Immigrante, écrite. Un texte écrit au départ par Clifford Simak, tout ça donc dans ces deux séries qui datent du début des années 60, Out of This World et Out of Nowhere. Il y a également eu Star Cops sur la BBC créé par Chris Boucher qui a également collaboré à Doctor Who et à Blake Seven, mais qui n'a duré que 9 épisodes en 87 sur la BBC 2. Alors une série un petit peu plus rigolote, qui avait l'air un peu plus rigolote, ça, c'est Star Maidens. En fait, c'est l'histoire qui se passe sur la planète Médusa, où les hommes sont réduits à de simples serviteurs, c'est-à-dire que c'est un petit peu inversé, c'est les femmes qui ont les rênes du pouvoir et tout, c'est elles qui ont toutes les elles ont toutes les télécommandes, il n'y a pas de problème, et les mecs, bon bah ils ont un petit peu le reste. Et donc c'est l'histoire de deux mecs qui se révèlent un petit peu. Alors c'est une coproduction anglo-allemande, l'histoire vient d'un couple allemand en fait qui produit ça avec anglo-allemande, mais en fait c'est produit pour la télé écossaise Scotland TV. Donc et ça a été diffusé en 1976, 13 épisodes de 30 minutes. Il y a également eu encore du Terry Nation, Survivors, 38 épisodes quand même. De 50 minutes entre 75 et 76 sur la BBC. Jerry Anderson et Sylvia, ils ont également produit j'avais oublié Terra Hawks, mais ça c'est une série avec des marionnettes mais qui est sortie dans les années 80, entre 83 et 86, qu'on a pu voir sur LWT, c'est-à-dire London Weekend TV,
qui est une des affiliées de ITV.
Voilà. Je vous ai également repéré quelques séries vachement rigolotes quand même. Bon, il y a bien entendu le Hitchhiker Guide to the Galaxy qui a été sorti sur la BBC. Il y a eu que 6 épisodes parce que ça a très mal marché.
Mais le budget était double par épisode par rapport au Doctor Who. Et Douglas Adams s'était auparavant fait la main justement pendant 2 saisons de Doctor Who.
Ouais,
il continuait à diriger la production de Doctor Who en même temps qu'il essayait de faire le Guide du Retard Galactique, dans lequel, Ils avaient des moyens qui n'étaient pas énormes quand même à la BBC. C'est pas évident de faire la double tête du président en mécanique. Ça a été un gros bazar.
Sinon, un peu plus tard, dans les années 80 également, il y a eu une mini-série qui n'a pas duré longtemps, un 10 épisodes de 25 minutes, entre octobre 85 et 86 sur la BBC, qui s'appelait Galloping Galaxies. Les histoires un peu rigolotes, fanfaronnes d'un verso marchand qui s'appelle le Voyager en 86 avec trois membres d'équipage, et puis bon, il arrive que des conneries quoi. Et plus loin, alors là c'est quand même une curiosité sortie par London Weekend Television, ça a duré que 6 épisodes de 60 minutes entre octobre et décembre 70, The Adventure of Don Quick, qui est en fait la transposition de Don Quichotte dans l'espace. Don Quick qui est un astronaute de seconde zone qui est chargé de la maintenance du matos, enfin des trucs comme ça, mais chaque fois qu'il foule le sol d'une planète avec son fidèle compagnon le sergent Sam Chopinzer, il déclenche des réactions multiples de la part de ses hôtes. Enfin bon, c'est un petit peu tout et n'importe quoi, mais c'est le pilote a été réalisé par Mike Newell en 1970. Ça te dit quelque chose?
Oui.
L'interprète, c'est Ian Hendry. Ça te dira rien du tout, et pourtant c'est lui le docteur David Keel, le pote de The Avengers, la première saison de Patrick McNee.
Eh oui, c'est lui qui va le chercher et
voilà,
qui se retrouve.
Le mec qui va le chercher, le docteur David, le rôle est tenu par Ian Hendry, durant les 26 épisodes de la première saison des Avengers. Il faut savoir que faut attendre la deuxième saison en 63 pour avoir le partenaire féminin dans les Avengers de Patrick McNee. En l'occurrence, la première, c'est Kathy Gale, l'actrice s'appelle... Et il le sait pas, Honor Blackman. Moi je le sais parce que
c'est peu connu, c'est les épisodes qui n'ont pas été diffusés en France.
C'est les épisodes en noir et blanc, attention quoi.
Ouais.
Il faut savoir que la première saison, les épisodes étaient tournés en direct, c'est-à-dire que c'était du théâtre filmé, avec tout un dispositif de caméra qui se déplaçait selon les pièces. C'était assez impressionnant. Assez rigolo à voir, de toute façon.
Notamment, il y a une scène de combat où le pantalon féminin s'est déchiré. Tout chapeau melon et bottes de cuir.
Voilà, on termine à présent. Voilà, c'est un petit aperçu. Il y en a plein d'autres, quoi. Mais enfin bon, c'est un petit aperçu. Il y a eu pas mal de séries
D'ailleurs, j'aurais pu vous faire un topo spécial uniquement sur ça, de séries de science-fiction pour les gosses, c'est-à-dire qui ont été intégrées au programme des gamins sur les chaînes anglaises. Il y en a eu pas mal et il y a eu pas mal de succès qui ont fait que ces séries, au lieu d'être regardées uniquement par les gosses, étaient également regardées par les parents. Alors, au niveau séries, il n'y a pas tellement de films de SF regardables cette semaine. Hein. Au niveau des séries, bon, bah, c'est des séries qu'on connaît plus ou moins. Star Trek Voyager, c'est ce soir. Il y a V également ce soir hein, sur TPS In Extreme, pour ceux qui connaissent pas, à partir de samedi. Bah, en plus, c'est la première saison, là. Il recommence depuis le début, alors c'est pas mal, quoi. C'est, ça vaut le coup, V. Hein. Donc, il y a également Star Trek Voyager sur Canal Jimmy ce soir. Non, demain soir, pardon, à 22h25. La saison 5. Il y a également Regenesis sur Arte lundi 20h40. Oui, c'est de la science-fiction.
C'est de la hard science.
C'est de la science-fiction.
Plus exactement, c'est de l'anticipation.
Ouais, ouais, mais bon, tu vois, l'explication, le sens propre du mot science-fiction, du mot composé, hein, je suis désolé, Regenesis, quoi. Parce que bon, moi, dans le premier épisode de lundi, c'est la cata. Parce que Denver est
Il commence par en parler.
Il est ravagé par la grippe, carrément, ce qui fait que David Sandstrom, il est dans le coma et tout, t'as vu, bon, il arrive à s'en sortir, mais limite, puisqu'il se fait renverser, il pense à autre chose. Normal, hein, il a raison de penser à autre chose. Et dans le deuxième épisode, on bascule à la saison 2, où on retrouve David Sandstrom qui s'est barré, il est en Chine. Mais il va lui arriver des conneries en Chine. Donc tout ça c'est dans Regenesis, c'est lundi sur Arte à partir de 20h40.
Ça y est, il a fini.
Il y a également mardi Star Trek Enterprise sur Canal Jimmy à 20h45.
C'est la série qui vient avant la première saison Star Trek. Voilà.
Ouais, ouais, ouais. Il y a également là c'est pas vraiment de la science-fiction, c'est plutôt un film de monstre. Mais enfin bon, je saute sur l'occasion parce que vraiment il y a que la télé avec les multiples chaînes pour nous passer des trucs comme ça. Le classique de Jack Arnold, l'étrange créature du lagon noir, le film de 54 qu'on pouvait regarder avec avec des lunettes en relief et tout.
Vous foutez mal de tronche ce truc.
Ah non, pas du tout, hein, ça marchait pas mal en plus. Hein. Bon, on va faire garder les lunettes, c'est tout. C'est diffusé par Sci-Fi Channel jeudi prochain à 22h20 et c'est vachement con parce que la suite de ce film, La Revanche de la créature du lagon noir, sorti l'année suivante en 55, également réalisé par Jack Arnold, eh ben, est diffusé par Cinéfix le même soir, juste avant, à 21h, tu vois.
Oh.
Alors, tu peux te faire d'abord le 2. Hein, à 21h jeudi sur Cinéfix et ensuite tu te fais le 1 sur Sci-Fi à 22h20 parce que la fin du premier colle avec le début du deuxième, c'est pile poil, magnifique, c'est génial. Et je termine quand même avec un des meilleurs films de science-fiction jamais réalisés du monde, Star Wars l'Empire contre-attaque, c'est vendredi prochain sur Canal Plus Sport,
le plus fort, le plus beau
Canal Plus Sport.
Alors, le plus drôle dans
vendredi
l'histoire.
Vendredi à minuit.
Le plus drôle dans l'histoire, c'est une info qui a été relayée par le site DVD Rama. George Lucas a annoncé récemment que c'était pour lui le pire film de la saga. Il disait que c'était vraiment naze, qu'il s'était complètement loupé, et ce qui expliquait pourquoi c'est le film qui avait fait le moins d'entrées. Enfin, le moins de millions de dollars, parce que là-bas, il compte en millions de dollars amassés. Ce mec est fou.
Bon, allez, on termine avec quelque chose de complètement différent. Un petit peu de zik quand même, parce qu'on a une radio musicale un petit peu, quoi. Avec ce soir, les Grammy Awards, c'est diffusé sur W9. À 20h45, c'est la grande messe de la musique américaine.
Je suis trop content, je remercie mon producteur, mon prof de chant, mes parents.
Non, mais ça vaut
le coup. 5 secondes, la musique.
Non, mais ça vaut le coup, surtout parce que les intermèdes musicaux hein, qui sont assurés en direct par les artistes, généralement, les mecs font des trucs exprès pour. Ils te font des trucs qui pètent, quoi. Ça n'a aucune commune mesure avec ce que tu peux voir au niveau des grands routes télévisuels en Europe, quoi. Ça n'a rien à voir.
C'est dans un Grammy Award que Britney Spears avait embrassé Madonna, non?
Ouais, je crois. Ouais. Enfin bon, c'est pas pour ça, quoi. C'est vraiment pour les.
Ah si, celui-là c'était pour ça. Quand même.
Les performances artistiques, là, tu te rends compte que bon, il y a une autre performance artistique qu'on pourra voir. Et là, c'est pas à ne pas louper. C'est le concert de la semaine. Hein, c'est les Clash au Palace en 80, diffusé mardi prochain sur Europe 2 TV à 20h45. C'est pas du bon, ça, franchement. Les Clash au Palace.
Ouais, j'imagine le genre de concert. Exterminate. Voilà. Non, mais vos gueules. C'était le supplément week-end spécial science-fiction. On a beaucoup débordé, oui, mais en même temps, on avait beaucoup de choses à dire et plein de choses à vous faire découvrir. Alors, je reprends mon conducteur là où je l'avais. Zou, hop. Et je vais dire Mais Thomas, peux-tu faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route ?
Bah déjà, je suis en train de regarder les notes de du sport et je m'aperçois qu'il y a plusieurs fiches qui s'appellent numéro 1.
C'est normal, il compte en base 1.
Voilà. Alors, si vous avez loupé le début de l'émission, vous avez manqué, en fait, c'était effectivement une spéciale SF qui a eu un dossier sur la saga Valérian en BD. Il y a eu une interview diffusée de Denis Bajram enregistrée à Angoulême. Voilà. On a eu 3 quiz sur la SF de la bande dessinée de SF également, la pompe à billes de Larry Hagman relatée de la série Nip Tuck, des séries anglaises de SF, le programme TV de SF actuel également, et l'annonce effectivement, on vous le redit maintenant, que Benjamin sera bien bel et bien présent en direct sur cette émission courant mars.
La semaine prochaine, nous on se retrouvera, on aura Malka et Rhys. Rhys est un dessinateur de Charlie Hebdo, et Malka est l'avocat de Charlie Hebdo, mais c'est aussi un scénariste de bande dessinée. C'est à propos de la face cachée de Nicolas Sarkozy en interview. C'est un spécial politique la semaine prochaine. Nom de Dieu, mais ça veut dire que nom d'un phaseur, ils vont pouvoir réécouter toute cette émission sur le site internet de la radio www.radio-fmr.net. Vous pouvez réécouter pratiquement tous les suppléments week-end et même vous abonner, commenter les chroniques écrites, puisque toutes les chroniques sont rédigées. C'est pour ça que c'est un peu lu des fois. On les balance sur le net et vous pouvez commenter dessus. N'hésitez pas.
Apportez des précisions. Dites si on a fait complètement fausse route. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord.
Voilà.
Suggestions également.
On ressortira la vieille interview d'ailleurs de Denis Bajram en vidéo pour le fun, une interview d'il y a 6 ans.
On le mettra sur le site.
Pour y foutre la touron, ce sera rigolo. La suite des programmes, ça c'est du sport de suite. 15h Zarma Farai, 17h Big Bang, 18h Vie d'Ordure, 19h Happy Rare, 20h La City World Experience, 21h30 9 Love. Et nous, on se retrouve, Thomas et moi, la semaine prochaine. Même heure, même fréquence. Je vous laisse avec Gus. Ciao.
Ciao.